Alors, on est rendu maintenant le Saint-Esprit durant la période des juges. Là, ça, c'est la période où, oui, on voit souvent le Saint-Esprit qui saisit certaines personnes, mais dans le sens de leur donner des capacités particulières qui sont temporaires et surtout, surtout physiques. Et pourquoi? C'est pour accomplir des actions de délivrance à l'égard du peuple d'Israël. Ça, c'est ce qui domine dans le livre des Juges. Mais je ne crois pas qu'on doive, par exemple, s'interroger sur ouais, quelle est toute la notion globale du Saint-Esprit dans la période des Juges. Vous voyez, la parole de Dieu et Dieu a jugé suffisant de nous dire ce que le Saint-Esprit faisait durant cette période. Ça ne veut pas dire qu'il ne faisait que ça et que c'était sa seule relation avec les êtres humains, mais c'est l'accent particulier que la Bible met pendant cette période sur le Saint-Esprit. Alors, il saisit certaines personnes, à commencer par Othniel. Donc, et là, franchement, je vais vous mentionner les juges qui, on voit, franchement, ils sont clairement identifiés comme étant saisis par l'Esprit de Dieu. Donc, Othniel, c'est un juge qui a délivré Israël du pouvoir des Syriens. Et vous savez que la période des juges, ben, ce sont des juges qu'on pourrait appeler locaux. Donc, ils sont rarement impliqués dans un, ouais, dans plusieurs tribus à la fois. Ils sont plutôt géographiques, ces juges-là, et liés à une ou deux ou peut-être trois tribus en particulier. Mais c'est très, très, très local et ce n'est pas pour l'ensemble d'Israël. Mais ils sont là pour délivrer. Et Othniel, c'est ce qu'il a fait avec les Syriens, en fait. On sait dans Juge 3 qu'on voit cela. Ensuite, c'est Gédéon, dans Juge 6, qui va délivrer Israël du pouvoir des Madianites et aussi des Amalécites, surtout des Madianites. Ensuite, on passe à Jephté, donc qui a délivré Israël du pouvoir des Ammonites. Et Jephté, on sait que même s'il était saisi par l'Esprit de Dieu pour accomplir des actes extraordinaires de délivrance du pouvoir des Ammonites, eh bien, ouais, il pouvait aussi faire des vœux qu'on pourrait peut-être qualifier d'insensés si effectivement il a fait ce qu'on comprend généralement au sens littéral d'offrir sa fille en sacrifice pour Dieu, ce qui est une abomination, quoi. Alors, c'est pour ça que beaucoup de commentateurs pensent que c'est pas du tout ce qu'il a fait, mais d'autres vont dire oui, mais c'est dans une période très, très sombre, le Saint-Esprit n'est pas en permanence dans la personne. Et puis Jephté, ben, même s'il a fait de bonnes choses par l'Esprit de Dieu, il pouvait aussi faire des choses insensées comme son vœu qu'il a mentionné. Quoi qu'il en soit, moi j'ai plutôt l'impression qu'il a plutôt consacré pour toute sa vie sa fille à l'Éternel, qu'il n'allait pas avoir d'enfant. Et c'était un drame parce que c'était une fille unique, donc un enfant unique, il n'y aurait pas de postérité pour Jephté. Moi, c'est ma compréhension personnelle. Là, le sacrifice humain, j'ai beaucoup de peine avec cette notion, mais bon, il y a des commentateurs très réputés et sérieux qui maintiennent ce point de vue-là. Les juges, hein, c'est terrible cette période, c'est vraiment terrible. Moi, je l'appelle souvent l'âge des ténèbres d'Israël. C'est épouvantable cette période-là, puis c'est triste. Je pense que j'ai jamais été capable de lire tout le livre des juges sans verser des larmes. Je suis incapable. Quand j'arrive à la fin et qu'une tribu d'Israël disparaît, là, ça vient me chercher au plus profond de moi-même. C'est épouvantable cette période. Et il y a eu Samson aussi. Heureusement qu'il fait partie de la liste des héros de Hébreux 11 parce que je ne suis pas certain qu'on l'aurait mis là. Mais il a terrassé un lion. Et puis je le mentionne parce que c'est spécifié dans le texte que c'est par l'Esprit de Dieu qu'il a terrassé, il a tué un lion. J'ai aucune peine à croire ça parce que moi, je vois un lion et je suis mort de peur juste à le voir. Alors je m'imagine faire un face-à-face avec un lion. Je pense que je vais être mort avant que le lion m'atteigne. Mais lui, là, il a terrassé le lion comme si de rien n'était. Mais c'est spécifié dans le texte que c'est l'Esprit de Dieu qui a fait ça. C'est comme, c'est pas, en fait. Je ne crois pas que la Bible est en train de nous dire, ouais, le Saint-Esprit, parfois, il va nous faire terrasser des bêtes sauvages. Ce n'est pas le point. C'est que Samson, là, il était menacé de mort par ce lion, puis Samson devait encore exercer un rôle spécifique à l'égard de la délivrance d'Israël. Et puis voilà, Dieu a jugé bon de ne pas permettre que ce lion-là mette fin à sa vie. Alors, c'est le contraire qui s'est passé. Mais c'est surtout la délivrance des Philistins dont il est question en lien avec Samson. Donc, on connaît tous ce récit extraordinaire de Samson. Alors, ça, c'est pour la période des juges, et ça se limite quand même beaucoup à cela, des capacités particulières pour exercer la délivrance du peuple d'Israël. Ensuite, on passe à la période monarchique. Là, comme je l'ai dit, ça couvre très, très large. Et je vais vous partager une belle découverte pour moi, très intéressante. Dans cette période, ça inclut beaucoup de livres bibliques. Donc, on parle bien sûr de livres historiques, hein, à partir de Samuel 8, 1 Samuel 8, et puis là, on passe à travers tous les livres de Samuel, des rois, les chroniques, et puis même, on se rend jusqu'à la fin là, de la chute des deux royaumes, et on doit inclure une bonne partie des livres poétiques et prophétiques aussi. Donc, ça couvre très large en termes de livres bibliques, cette période-là. J'ai remarqué qu'en prenant toutes les données qui nous étaient présentées sur le Saint-Esprit durant cette période, que ce soit dans les livres historiques, poétiques et prophétiques, et j'ai remarqué une antithèse qui ressort fortement, qui m'a impressionné. C'est-à-dire qu'on a en lien avec le Saint-Esprit trois éléments qui s'opposent, mais vraiment de manière flagrante. Et chaque fois, le Saint-Esprit est impliqué là-dedans. Regardez bien, vous allez comprendre ce que je veux dire. D'une part, durant cette période, on parle de l'omniprésence du Saint-Esprit. Je ne sais pas si vous me suivez, mais je suis dans le psaume 139, verset 7, quand je dis cela. Donc, on voit là dans ce psaume que l'Esprit de Dieu est partout à la fois. On ne peut pas fuir loin de l'Esprit de Dieu. Il est partout à la fois. Mais l'antithèse de cela qu'on voit dans cette même période monarchique, c'est que le Saint-Esprit, il peut aussi se retirer, donc s'en aller. Alors, ça fait comme un contraste, une antithèse frappante. On le voit omniprésent, mais dans la même période, il peut aussi se retirer. Et là, vous comprenez que je parle, bien sûr, de Saül. Et le Saint-Esprit s'est retiré de Saül parce que Saül a été désobéissant. D'ailleurs, quand David lui-même va commettre un péché grave avec Bathsheba, ce qui va l'entraîner dans le mensonge et puis dans le meurtre, eh bien, suite à la révélation de son péché par l'Esprit de Dieu qui utilise Nathan le prophète, hein, eh bien, David, dans sa prière, va demander à Dieu, « Ne me retire pas ton Saint-Esprit. » C'est le psaume 51, verset 13. Ben, c'était normal pour David, quelque part, de faire cette prière, puisque dans son propre contexte à lui, dans son temps à lui, le roi qui le précédait avait vécu cette expérience de voir le Saint-Esprit se retirer de lui. Alors, on peut comprendre pour David que c'est tout à fait normal qu'il en arrive à une telle prière avec ce qu'il avait fait. C'était grave, voilà. Mais un chrétien, par exemple, aujourd'hui, ne peut absolument pas faire cette prière. Un chrétien ne devrait jamais demander à Dieu de ne pas lui retirer l'esprit, parce que pour nous, la présence de l'esprit, elle est permanente. Nous sommes scellés de l'esprit, nous allons le voir très bientôt. Alors, dans la révélation progressive de Dieu, dans l'époque monarchique, oui, le Saint-Esprit venait sur les gens ou dans les gens, mais de façon temporaire, et ce n'était pas constant comme aujourd'hui dans l'Église. C'était tout à fait différent. Ça dénote aussi le privilège que nous avons, hein, les chrétiens, là, les croyants de l'Église. Le Saint-Esprit est toujours en nous, il ne peut pas partir. On peut mal agir avec et puis on va s'en ressentir, c'est vrai. Je vais d'ailleurs insister là-dessus tout à l'heure. Mais voilà, dans la période monarchique, il est omniprésent et en même temps, il peut se retirer d'une personne. On le voit dans David parce qu'il dirige David et c'est magnifique. Il y a au moins trois textes qui montrent la direction de David par l'Esprit-Saint dans 1 Samuel 16, dans 1 Chronique 28 et dans Psaume 143. Pas nécessaire de noter, c'est tout est là dans vos notes. Alors, il dirige David, mais on le voit aussi utiliser ou diriger Saül et ses hommes, mais cette fois malgré eux. Et vous rappelez-vous ce que je veux dire? Parfois, le Saint-Esprit saisissait Saül ou ses hommes pour qu'ils se mettent à prophétiser. Et ça, c'était malgré eux. Ils cherchaient David pour le tuer. Ils n'avaient pas envie du tout de prophétiser, là. Ils n'étaient pas conduits, pas du tout par l'Esprit Saint dans ce qu'ils faisaient. Ils agissaient mal. Ils poursuivaient David pour le tuer, c'est pour s'en débarrasser. Mais l'Esprit de Dieu les saisissait et ils se mettaient à prophétiser. Ça, c'est une antithèse qui m'a frappé dans la période monarchique. Il dirige David, qui le fait de bon gré, hein, qui se soumet à la direction de l'Esprit de Dieu et qui est pleinement conscient de sa présence, alors qu'il dirige aussi les ennemis de David, malgré eux, pour qu'ils n'agissent pas mal envers David. C'est Dieu qui protège son élu, quoi, son roi choisi. On le voit aussi diriger de la même manière Élie et les prophètes de Yahweh. Ils sont dirigés par l'Esprit de l'Éternel. Et j'avais jamais remarqué que dans l'Ancien Testament, en fait, dans cette période monarchique, on pouvait voir trois prophètes en particulier conduits par l'Esprit de l'Éternel. Quand on les lit dans les textes éparpillés un peu partout dans l'histoire, ben, c'est un événement isolé, alors peut-être qu'on ne le remarque pas. Mais quand on fait la démarche que j'ai faite de rassembler toutes les données ensemble, là, j'ai constaté que Élie était dirigé par l'Esprit de l'Éternel ou de Yahweh, Azaria, Jacaziel et Zacharie. Ben, j'aurais même pas pu vous nommer ces trois prophètes-là la semaine passée. Je ne savais même pas. Ben, je l'avais déjà lu, mais je n'avais jamais vraiment remarqué et mis mon attention sur cela. Alors voilà, eux, ils sont nommés d'une manière particulière comme étant dirigés par l'Esprit de Dieu durant cette période. Et à l'inverse, alors que ces prophètes-là se laissent conduire et diriger, on a l'exemple d'un Sédécias, faux prophète, qui méprise l'Esprit de Dieu. Il méprise l'Esprit de Dieu. Je ne sais pas si vous vous rappelez l'épisode, vous le lirez plus tard dans 1 Roi 22 ou 2 Chroniques 18, mais ce gars, il tape en plein visage, hein, il donne un soufflet au visage de Michée, et puis il lui dit « Ouais, par où est passé l'Esprit de l'Éternel? Hein? » C'est un mépris, c'est comme s'il lui disait « Ouais, l'Esprit de Dieu, il ne passe pas par toi, c'est par moi qu'il passe. » Puis c'est un faux prophète qui parle. Alors, franchement, lui, il est rempli de mépris. Alors, dans la période monarchique, on a des prophètes conduits par l'Esprit de l'Éternel, mais on a aussi d'autres faux prophètes, en fait, des faux prophètes, et qui se moquent carrément de l'Esprit de Dieu. Ouais, voilà ce qu'on apprend durant cette période. On est toujours dans cette période-là, mais cette fois-là, on le regarde d'une façon thématique. Et j'ai relevé, en fait, beaucoup, beaucoup de passages dans les écrits prophétiques, surtout dans deux livres, Ésaïe et Ézéchiel. Mais il y a aussi des références dans Agée, dans Zacharie et peut-être quelques autres livres. Vous le verrez dans vos notes. Mais on voit vraiment que dans ces livres-là, d'une manière spécifique, le Saint-Esprit est beaucoup impliqué dans les prophéties. Et j'ai regroupé ces prophéties-là d'une manière thématique, en fait, concernant ceux à qui il se réfère ou des événements auxquels il se réfère. Et on peut dire qu'il y a beaucoup de prophéties en lien avec Christ qui mettent l'accent sur le Saint-Esprit. On a même ce fameux texte dans la prophétie d'Ésaïe 11 qui nous révèle ce que l'Apocalypse appelle les sept esprits de l'Éternel. Donc, on voit dans Apocalypse, dans Ésaïe 11, 2, donc l'Esprit de l'Éternel avec trois paires de synonymes ou de compléments qui nous décrivent le Saint-Esprit sur ses multiples facettes. Et l'Apocalypse dit simplement, au chapitre 1, verset 4, par exemple, les sept esprits de l'Éternel. Simplement une manière de dire, en fait, que le Saint-Esprit est franchement omniprésent dans la personne de Christ. Il est fortement lié à la personne de Christ. On va le voir tout à l'heure dans le survol du Nouveau Testament, de quelle manière cela se révèle d'une façon particulière. Aussi, le Saint-Esprit, dans les prophéties, il est fortement lié au concept de la nouvelle alliance. À nouveau dans Ésaïe, dans Ézéchiel 36, là, d'une manière particulière, bon, je pense que je vais lire ce passage parce que j'aimerais quand même lire quelques textes. Et puis dans Ézéchiel 36, c'est tout à fait le contexte de la nouvelle alliance. Et puis là, je vais lire le verset 27. Et puis on voit là, le rôle du Saint-Esprit. Et je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai au-dedans de vous un esprit nouveau. Et j'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair et je mettrai mon esprit au-dedans de vous. Oui, le Saint-Esprit et la présence permanente du Saint-Esprit dans le croyant, ça c'est un contexte de nouvelle alliance qui est déjà clairement annoncé dans l'Ancien Testament, mais non seulement dans ce texte d'Ézéchiel, mais encore dans Ésaïe. On le voit dans plusieurs passages, Ésaïe 32, Ésaïe 44, 44, etc. Et encore Joël 3, les versets 1 et 2, où on voit le Saint-Esprit à nouveau dans un contexte de nouvelle alliance. Donc, ce sont des thématiques qui dominent en lien avec le rôle du Saint-Esprit. L'accomplissement même des prophéties est présenté comme étant un rôle particulier du Saint-Esprit et on le voit dans différents textes d'Ésaïe et d'Ézéchiel. Et là, je regarde les références et il y en a une peut-être qui, oui, je vais me relire, c'est dans Ésaïe 59. Je n'ai pas les versets, j'ai que les références devant moi, sinon je vous aurais cité le verset directement. Mais on lit ceci dans Ésaïe 59, les versets 19 et 21. Et du couchant, ils craindront le nom de l'Éternel et du lever du soleil sa gloire. Donc, c'est comme une manière de dire d'un bout à l'autre du monde, on va craindre l'Éternel, on va voir sa gloire. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel lèvera un étendard contre lui. Et on voit un petit peu plus loin, verset 21. Et quant à moi, c'est ici mon alliance avec eux, dit l'Éternel. Mon esprit qui est sur toi et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront pas de ta bouche, ni de la bouche de ta semence, etc. Donc, le Saint-Esprit est impliqué dans l'accomplissement des prophéties bibliques. Et on le voit très clairement dans plusieurs textes. Et puis, l'autre lien ou domaine, mais en fait, ça touche plus une personne, que je voudrais mentionner en lien avec le Saint-Esprit dans les prophéties, c'est la personne même d'Ézéchiel. Et puis, c'est frappant de voir plusieurs textes de ce livre-là qu'il a rédigé, où on voit le Saint-Esprit parfois tombe sur Ézéchiel, parfois élève Ézéchiel dans les airs. Ça devait être quelque chose à voir, ça. Ou bien, alors, l'enlève carrément et le transporte ailleurs. Il y a plusieurs textes d'Ézéchiel qui mentionnent ces expériences vécues par le Saint-Esprit. Mais là, j'ai découvert quelque chose de super intéressant, puis je vais vous expliquer comment je l'ai découvert. Quand j'ai fait ma recherche sur les versets qui parlent du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament, vous savez, les résultats de ma recherche se sont tous affichés dans mon logiciel biblique Logos. Ils se sont tous affichés les uns au-dessus des autres. Donc, dans un même livre, par exemple, là, je pouvais voir tous les versets, c'était qu'un extrait du verset, mais tous les versets où on avait le mot « esprit » qui était en lien avec le Saint-Esprit. Et donc, là, je pouvais voir d'un coup d'œil assez rapide, là, partout, dans chaque livre de l'Ancien Testament où on voyait le Saint-Esprit. Et quand je suis arrivé dans les résultats de ma recherche dans le livre d'Ézéchiel, j'ai remarqué quelque chose qui m'a frappé. J'ai vu un chiasme. Bon, je vous ai déjà expliqué probablement c'est quoi un chiasme. C'est ce fameux miroir littéraire, là où on met en position symétrique des déclarations semblables ou très, très, très similaires, là, ou identiques même. Donc, on voit des points qui se rejoignent, disons, le point A rejoint l'autre point A plus loin, on se rapproche au centre, point B, etc., puis on peut avoir des chiasmes parfois qui sont sur presque toutes les lettres de l'alphabet, d'énormes chiasmes, ça existe. Mais là, j'en ai vu un avec 6 lignes, ça m'a sauté aux yeux à cause de la formulation des phrases, puis je me suis dit, je vais le mettre en chiasme pour les auditeurs ce soir pour vous, pour que vous puissiez le voir avec moi. Regardez bien ce chiasme qui nous parle du Saint-Esprit dans la vie et le ministère d'Ézéchiel. C'est dans les chapitres 2 et 3 qu'on voit ce chiasme. Premièrement, on voit la première ligne du chiasme qui nous dit ceci. « Fils d'homme, je parlerai avec toi. » C'est dans Ézéchiel 2, verset 1. À l'autre bout, à l'opposé, comme dans un miroir, le reflet de cette phrase-là symétrique nous dit, au chapitre 3, verset 27, « Quand je parlerai avec toi, j'ouvrirai ta bouche. » Là, on ne voit pas le mot esprit là-dedans pour tout de suite, mais vous allez le voir parce que ces deux versets-là sont les extrémités du chiasme et le cœur, c'est le Saint-Esprit qui parle par le ministère et la bouche, si on peut dire, d'Ézéchiel. Regardez bien comment ça se dessine. La deuxième ligne, la ligne B, nous dit clairement « L'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds ». C'est une manière de dire que maintenant, il est sous le contrôle de l'Esprit de Dieu pour parler. Ce n'est pas de l'automatisation, dans le sens où il est debout puis il va se mettre à dire des paroles un peu comme automatique, comme un robot, mais pas du tout. Mais c'est simplement parce qu'il reconnaît la présence de l'Esprit de Dieu en lui et qu'il est sur le point de recevoir un message de Dieu pour le transmettre au peuple. Ça, c'est dans le chapitre 2, verset 2. Vous voyez, c'est tout près de la première phrase. Regardez la symétrie à l'autre bout du chiasme. Chapitre 3, verset 24, exactement la même phrase. L'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. Ça m'a complètement frappé. Quand j'ai vu ça, je dis, c'est pas possible. C'est remarquable. Et au cœur du chiasme, on a la ligne C, l'Esprit m'enleva. Ça, c'est au cœur. Vous voyez que de 2.1 à 3.27, on se situe à peu près au milieu, 3.12, l'Esprit m'enleva. Et au verset 14, deux versets plus loin, exactement les mêmes mots. 3.14, et l'Esprit m'enleva. Qu'est-ce que ça nous dit? C'est que tout le ministère prophétique d'Ézéchiel repose sur la personne et l'œuvre du Saint-Esprit en lui. Il a été enlevé par l'Esprit dans le sens où l'Esprit de Dieu l'a mis à part pour lui communiquer un message pour le peuple. Il est entré en lui pour qu'il le possède pleinement, ce message. Il l'a fait tenir debout devant le peuple. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a parlé. Et là, on revient aux extrémités du chiasme. C'est cool, hein? Ah, moi, ça m'a vraiment, ça m'a épaté, ça m'a fait sourire. Je me suis dit, c'est formidable comment Dieu donne sa parole. Il y a souvent toutes sortes de structures littéraires comme ça. Et franchement, je n'avais jamais vu ça. Hein, mais parfois, on passe par-dessus. Et puis là, ben, c'est dans le cadre d'une recherche que ça m'a sauté carrément aux yeux. Puis j'ai aucun doute que ce chiasme-là, il est intentionnel. Je ne fabule pas, je suis convaincu. Ça ne peut pas être précis à ce point-là, là. Et puis, surtout que ça résume tellement bien le ministère d'Ézéchiel. Voilà, ça couvre l'essentiel de ce que je voulais dire avec le Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. Et là, maintenant, nous allons présenter la personne et l'œuvre du Saint-Esprit dans le Nouveau Testament, mais dans un cadre particulier. Nous allons le voir dans le cadre de ses relations avec Christ, avec Israël et avec l'Église. Et je crois que cette vision résume très bien tout le contenu de la révélation progressive de Dieu dans le Nouveau Testament en lien avec le Saint-Esprit. Alors, en lien avec Christ, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que le Saint-Esprit préside, si on peut le dire ainsi, à la conception de Jésus dans le ventre de Marie. On sait très bien que Jésus n'a pas de nature pécheresse parce qu'il n'est pas le fruit d'une relation sexuelle entre un homme et une femme, qui sont tous les deux pécheurs. C'est tout le contraire. Marie est pécheresse, c'est vrai, mais elle n'a pas conçu Jésus d'elle-même. Il y avait quand même un géniteur, si je peux le dire, c'est le Saint-Esprit. Et l'Esprit-Saint lui-même a formé Jésus dans son humanité. Hein? Quand on parle de la conception de Jésus par le Saint-Esprit, c'est uniquement dans son corps humain, dans son humanité, puisque Jésus est Dieu éternel. Il n'a pas de début, alors il n'a pas de commencement. C'est pourquoi, en fait, ce phénomène-là est extraordinaire et est un abaissement en soi, puisque comment le Fils de Dieu éternel peut-il entrer dans le monde comme étant un bébé, en fait un embryon, et ensuite un bébé quoi, qui se développe? Là, je ne pourrais pas expliquer ce phénomène parce que, premièrement, je n'y comprends rien. Et puis, deuxièmement, la Bible, elle nous dit simplement qu'il fut conçu par le Saint-Esprit, c'est tout. Mais le phénomène physiologique est... voilà, je ne pourrais pas l'expliquer, surtout que dans le domaine de la médecine, là, j'étais à la dernière place, là, au fond de la salle. Alors, je n'oserais pas dire quoi que ce soit, parce que je vais certainement dire des bêtises. Mais franchement, là, la conception de Jésus par le Saint-Esprit, pour moi, c'est suffisant C'est un miracle. Et donc, en fait, on pourrait presque dire que Marie est tout simplement une porteuse, un moyen de transport, quoi, pour une porte d'entrée pour Jésus dans ce monde. Et tout le phénomène de croissance avec Jésus, c'est quand même extraordinaire et difficile à expliquer, hein, pour nous. Mais l'éternité vient d'entrer dans le temps. La divinité vient d'entrer dans l'humanité. Et ça, c'est extraordinaire. On a maintenant Emmanuel qui est en train d'être formé dans le sein de sa mère. Ensuite, on voit que le Saint-Esprit va descendre sur Jésus sous la forme d'une colombe à son baptême. Et c'est important parce que c'était une belle déclaration de la Trinité, justement, puisque le Père, on l'entend audiblement de sa voix du ciel, puisque le Fils est présent dans un corps d'homme sur la terre, bien, l'Esprit, comment on peut le voir, comment on peut constater et être sûr de sa présence au baptême, eh bien, il prend forme d'une colombe. Et là, à nouveau, je ne peux pas trop dire à quoi ça ressemblait. C'était une colombe, ça ressemblait à une colombe, mais je veux dire que c'était une vraie colombe matérielle, j'ai aucune idée. Mais bref, c'est sous cette forme corporelle, donc semble clairement dire physique, que le Saint-Esprit est apparu au baptême. Les quatre évangiles, hein, soulignent ce fait. Ensuite, on a, dans la tentation, la direction du Saint-Esprit. C'est un choc parfois pour certains chrétiens de réaliser que Jésus a été poussé vers la tentation par l'Esprit de Dieu, parce que cette tentation était nécessaire pour confirmer la pureté de Christ et son humanité parfaite, sans péché. Et donc, voilà, cette confrontation a certainement été pénible pour Jésus dans son humanité, mais bien entendu, il a triomphé parce que Jésus ne peut pas pécher. Il est impeccable, on l'a souligné la semaine passée. Mais le Saint-Esprit a prévu ce temps de formation pour Jésus. Ensuite, on voit le Saint-Esprit conduire le Seigneur Jésus dans ses œuvres. Beaucoup de passages dans les évangiles aussi, dans l'Épître aux Hébreux, un beau texte, entre autres, au chapitre 9, verset 14, qui nous parle de la direction du Saint-Esprit dans la vie de Jésus, et en particulier en lien avec ses œuvres. Je vais lire ce passage. Hébreux 9, 14 nous dit ceci. Combien plus le sang du Christ qui, regardez bien, par l'Esprit éternel s'est offert lui-même à Dieu sans tache. Même l'offrande de son corps à la croix a été faite par l'Esprit éternel de Dieu. Le Saint-Esprit est impliqué dans l'œuvre à la croix, hein, dans la rédemption. Et le Père aussi, d'ailleurs, toute la Trinité était à la croix, d'une certaine façon. Toute la Trinité. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ensuite, on voit le Saint-Esprit diriger le Seigneur Jésus dans ses paroles. Alors, combien de fois le Seigneur a parlé par l'Esprit Saint, a communiqué la prophétie biblique, a confirmé aussi son identité. Et on voit dans plusieurs passages, de manière explicite, hein, c'est pas implicite, c'est clairement dit, le Saint-Esprit était impliqué dans les paroles de Christ. Et une chose qu'on découvre dans les Actes des apôtres, c'est que le Saint-Esprit lui-même sera envoyé par Christ dans les croyants de l'Église quand Jésus va retourner au ciel. Donc, dans l'Église primitive, chez les pères de l'Église, il y a eu de grandes discussions là-dessus, à savoir est-ce que l'Esprit procède du Père, procède du Fils, procède des deux. Finalement, je pense que l'Église en général est arrivée au constat que l'Esprit de Dieu a été envoyé par le Père et le Fils dans les croyants de l'Église. Mais Actes 2, 33 mentionne vraiment comme une chaîne que Jésus a reçu l'Esprit du Père et que Jésus a envoyé l'Esprit aux croyants de l'Église. De toute façon, ça montre la contribution particulière de chaque personne de la Trinité dans ce don extraordinaire qui nous a été fait en nous. Et ça nous amène justement à parler maintenant de la relation de l'Esprit-Saint avec les deux peuples de Dieu, si je peux dire, de l'Ancien Testament, Israël, et dans le Nouveau, l'Église. D'abord, Israël. Et là, je suis tombé des nues parce que je ne m'attendais pas à ce que j'allais découvrir concernant le Saint-Esprit et son lien particulier avec Israël. C'est pas très joli, en fait. Vous allez le voir avec moi. Bon, on peut quand même dire que ça commence bien, parce que dans le Nouveau Testament, en lien avec Israël, on voit beaucoup la notion de plénitude de l'Esprit-Saint. Mais en fait, la plénitude, je le rappelle, c'est le fait d'être rempli de l'Esprit, donc contrôlé ou dirigé par l'Esprit. Et puis, on le voit que dans deux chapitres de l'Évangile selon Luc, c'est tout. On ne le voit pas ailleurs. Seulement dans Luc et seulement dans Luc 1 et 2, et trois fois dans le chapitre 1 et une fois dans le chapitre 2. D'une manière chronologique, on voit le Saint-Esprit, remplir Zacharie, le papa de Jean-Baptiste, ensuite sa maman, Élisabeth, ensuite Jean-Baptiste lui-même, mais j'ai mis ça dans un ordre chronologique, mais en fait, c'est Jean-Baptiste qui vient en premier dans le texte de Luc parce qu'il est dans le sein de sa mère encore. Il est déjà rempli de l'Esprit dans le sein de sa mère. Et puis, quatrièmement, on a Siméon qui est dirigé, poussé par l'Esprit, à venir au temple de Jérusalem. On sait quand Jésus était encore un bébé, enfant. Voilà, on a ces quatre personnes qui sont remplies de l'Esprit, Zacharie, Élisabeth, Jean-Baptiste et Siméon. Mais après, là, ce n'est pas très reluisant. Là, il faut parler du blasphème contre le Saint-Esprit. Je vous assure que je pense que j'ai bien fait mes devoirs. J'ai regardé de manière chronologique à travers toute la révélation progressive de Dieu dans le Nouveau Testament et en lien avec Israël, le seul point, le prochain point sur lequel je suis obligé de parler concernant l'Esprit et Israël, c'est le blasphème du Saint-Esprit. C'est quand même terrible quand on y pense. Ce n'est pas surprenant qu'Israël ait jugé quelque part et mis de côté, pas rejeté, mais mis de côté pour que l'Église maintenant se développe. Et à l'opposé, la relation entre l'Église et le Saint-Esprit, c'est tout à fait différent. Hein? Mais là, on a le blasphème contre le Saint-Esprit. C'est dans Matthieu 12 d'une façon particulière, mais aussi dans Marc 3 et Luc 12. Mais on voit que les chefs religieux juifs ont attribué la puissance des miracles du Seigneur Jésus à Béelzébul, une personnification du diable, plutôt qu'au Saint-Esprit. Voilà le blasphème contre le Saint-Esprit. Ce n'est pas de refuser d'accepter Jésus comme sauveur qui est le blasphème du Saint-Esprit. Les conséquences seront les mêmes, c'est vrai. C'est la perdition éternelle. Mais, par contre, le blasphème contre le Saint-Esprit, si vous voulez l'interpréter textuellement, bibliquement, solidement, c'est un péché national juif commis par les chefs religieux juifs qui fait en sorte qu'il n'y a pas de pardon pour ce péché et Israël est mis de côté par la suite. Et c'est tout de suite après que Jésus se met à parler en parabole, en jugement contre Israël pour ce péché de blasphème. Et maintenant, voilà, ils ne comprendront pas, ils ne verront pas, ils n'entendront pas. Ils sont sous le jugement qui dure jusqu'à aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'un Juif ne peut pas se convertir. Bien au contraire, il y a au moins 5 à 8 000 Juifs convertis au début des Actes. Paul était juif, les apôtres étaient juifs, etc. Mais Israël, en tant que nation, peuple qui appartient à Dieu, peuple de l'Alliance, ils sont mis de côté et tombent sous ce jugement de Dieu qui dure jusqu'à aujourd'hui et qui se terminera à la fin du temps des nations par le retour de Christ notre Seigneur. Quel épisode grave dans l'histoire d'Israël. Ensuite, pas beaucoup plus brillant, la résistance. C'est le mot qui résume la troisième et dernière étape des relations entre le Saint-Esprit et le peuple d'Israël, alors que Étienne va dire dans son fameux discours au chapitre 7 des Actes que Israël s'oppose ou résiste constamment au Saint-Esprit. C'est dit directement comme cela. Et on comprend très bien qu'en fait, c'est une résistance ou une opposition au message des prophètes communiqués par le Saint-Esprit. Et cette opposition s'est vue dans le rejet de Jésus et se continue d'être vue dans le rejet des apôtres qui, perpétuent ou continuent le ministère du Seigneur. Et voilà, ça, le fait de cette résistance vient aussi de ce blasphème. Et puis voilà, c'est Israël qui, malheureusement, rejette son Messie. Mais il y a quand même un avenir glorieux pour Israël. Apparemment, j'ai écrit un livre là-dessus, vous jetterez un petit coup d'œil. On a aussi les relations du Saint-Esprit avec l'Église. Et là, c'est ce qui domine dans le Nouveau Testament. Mais quand je dis domine, là, c'est tellement dominant que c'est tout partout. à travers, déjà, il y a des passages dans les évangiles, et puis il y a aussi ces textes, bien entendu, des épîtres. Mais il y a un texte dans l'évangile selon Jean que je veux lire avec vous parce qu'il est assez souvent mal interprété, je pense. Et j'aimerais vous proposer l'interprétation qui me semble être correcte pour ce verset-là. Dans l'évangile selon Jean, au chapitre 20, au verset 22, on lit ceci au sujet du Seigneur Jésus qui est avec ses apôtres, là. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et ayant dit cela, il souffla en eux et leur dit, recevez l'Esprit Saint. Et parfois, on interprète ce texte comme s'il y avait eu une pré-réception du Saint-Esprit avant la Pentecôte pour les apôtres. Mais ce n'est pas le cas, parce que Acte 2 nous montre très clairement le Saint-Esprit qui vient pour la première fois sur les apôtres. Et d'ailleurs, le texte met l'accent uniquement sur les apôtres dans Acte 2 pour ce qui concerne la réception de l'Esprit et le phénomène du parler en langue qui va suivre et confirmer en fait cette réception. Mais alors, comment comprendre ce qui se passe dans ce passage? Eh bien, il s'agit simplement d'une annonce qu'on pourrait même qualifier de prophétique, mais c'est une annonce d'une manière symbolique du baptême de l'Esprit qui allait se produire en Acte 2. Alors, le souffle de Jésus et la parole qui l'accompagne est simplement un geste symbolique de sa part pour confirmer ce qui s'en vient, en fait, puis ils vont l'attendre que quelques jours, et puis le Saint-Esprit va venir par la suite. Il y a aussi un rôle de conviction chez le Saint-Esprit pendant la période de l'Église, mais que Jésus a déjà annoncé aux apôtres, et c'était pour eux d'abord que c'était dit. C'est-à-dire que le Saint-Esprit va convaincre de péché, de justice et de jugement. Ça, c'était pour les apôtres au départ, mais par application, c'est encore vrai dans l'Église aujourd'hui. En fait, c'est toujours vrai partout que c'est le Saint-Esprit qui amène cette conviction profonde dans le cœur. Et j'ai le sentiment que c'est vrai aussi autant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau, dans le sens où c'est toujours le Saint-Esprit qui amène les hommes à cette conviction de péché, de justice et de jugement qui produit aussi, ouais, cette nouvelle naissance qui amène les gens à croire en lui. Mais par contre, la manière dont cela prend forme me semble différente dans le Nouveau Testament que dans l'Ancien Testament, en ce sens où on a maintenant le baptême de l'Esprit qui me semble absent dans l'Ancien Testament. Bon, il y a beaucoup de commentateurs, de théologiens qui parlent d'un baptême de l'Esprit déjà dans l'Ancien Testament. Bon, qui suis-je pour dire non, c'était pas là, le Saint-Esprit n'était pas de façon permanente. Les données bibliques, je l'ai même mentionné, j'ai donné des exemples, semblent me prouver que le Saint-Esprit venait de façon temporaire, même s'il pouvait être là pendant toute la vie d'une personne. Je crois qu'il y a quand même une différence entre ce phénomène et le fait d'être scellé de l'Esprit ou baptisé de l'Esprit. Parce que dans ce phénomène, il n'y a pas simplement le concept de la nouvelle naissance qui se produit, mais il y a aussi l'introduction dans l'Église. Et pour moi, l'Église n'est pas dans l'Ancien Testament. C'est pourquoi, à mon sens, même s'il y a régénération spirituelle déjà dans l'Ancien Testament, même si on pourrait parler d'une présence permanente dans le cœur des croyants de l'Ancien Testament, il n'y a pas de toute évidence cet aspect de l'Église, et Israël ne peut pas être confondu avec l'Église. Il me semble que les données bibliques sont trop abondantes pour les confondre l'un avec l'autre. Alors, le baptême de l'Esprit est l'aspect le plus dominant, mais dominant dans le Nouveau Testament en lien avec l'Église. C'est annoncé constamment dans les évangiles. Écoutez, vous allez le voir dans vos notes, là, il y a des références dans Matthieu, Marc, Luc, Jean, dans les Actes au début et suite à l'expérience de la Pentecôte, on voit constamment le baptême du Saint-Esprit, le phénomène où l'Esprit vient dans le croyant et le croyant est ajouté à l'Église comme membre d'un corps vivant de cet organisme qui s'appelle l'Église. Éphésiens 1,13 dit qu'on a été scellé de l'Esprit. C'est le baptême de l'Esprit qui fait ça. C'est à ce moment-là qu'on est scellé de l'Esprit, quand le Saint-Esprit nous baptise, c'est-à-dire il vient en nous et nous met dans l'Église en même temps. Mettez pas de chronologie là-dessus, ce n'est pas nécessaire, là. sais, il y en a qui parlent de vraiment là, étape 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, là, avec la foi, la repentance, ensuite la nouvelle naissance, ensuite le baptême de l'Esprit, ensuite le sceau de l'Esprit. Ce n'est pas nécessaire. Tous ces éléments-là font partie du baptême de l'Esprit. Et puis, il y a beaucoup de textes là-dessus, vous allez voir, assez impressionnants. J'ai mis les textes, les références, et vous voyez qu'il y en a plusieurs. Et peut-être un dernier point qu'on peut mentionner maintenant, en fait, on va en mentionner d'autres, mais en lien avec, si je pourrais dire, le début de la vie chrétienne, hein, et puis de l'expérience du fait de devenir croyant, d'avoir l'Esprit en nous, il y a aussi la question de l'identification dans le baptême d'eau. Le baptême d'eau est une identification à l'œuvre de Dieu par le Saint-Esprit dans notre cœur, en ce sens que nous avons été identifiés à la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Christ. Eh bien, quand on est baptisé d'eau, nous voulons nous identifier au Dieu trinitaire, quoi, autant au Père, au Fils qu'au Saint-Esprit. Et voilà pourquoi on est baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Parce que dans le baptême d'eau, nous déclarons à tous les témoins là, qui sont présents au baptême, « Voici moi, je suis mort avec Christ, je suis enseveli avec lui, je suis ressuscité en nouveauté de vie, et tout cela est une opération d'un Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit. » Voilà pourquoi on dit « Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Puisqu'il est pleinement impliqué, ce Dieu trinitaire, dans toute l'œuvre de rédemption. C'est très important de faire la distinction entre le baptême d'eau, qui n'apporte rien véritablement de spirituel, en ce sens qu'on ne va pas avoir une meilleure spiritualité après, on ne devient pas plus spirituel. Il ne se passe rien. En fait, j'ai dit de façon un peu humoristique dans une église récemment, la seule chose qui se passe, c'est qu'on est tout mouillé quoi, quand on est baptisé d'eau. On est tout trempé. Mais c'est le message qu'on lance qui est important. C'est l'expérience qu'on vit qui fait qu'on s'identifie pleinement maintenant à ce qu'on a vécu intérieurement et spirituellement. Mais il y a encore beaucoup d'autres rôles du Saint-Esprit en lien avec l'Église. On peut dire clairement qu'il conduit les croyants dans leurs œuvres. J'aime bien le texte des Actes où Paul il voulait aller dans un territoire et l'Esprit de Dieu ne lui a pas permis. Il l'a dirigé plutôt vers Troas. Magnifique! Le Saint-Esprit dirige les œuvres des croyants. Vous trouverez toutes les références à nouveau. Il dirige les paroles aussi. Hein, il nous conduit dans nos paroles et je trouve... J'ai trouvé très beau ce passage où il dit, dans un contexte même où on nous amène dans la persécution à répondre de ce que l'on croit, Dieu dit, ne vous inquiétez pas. Ben, c'est aux apôtres avant tout qu'il le dit, mais tous les chrétiens peuvent avoir cette espérance d'un Dieu qui dirige ses paroles dans un contexte où il ne sait pas du tout quoi dire, il n'est pas prêt, quoi. Mais voilà, il y a beaucoup de passages qui nous mentionnent cette direction. Et ensuite, je dirais que là, c'est le cœur de l'activité du Saint-Esprit dans la vie d'un chrétien, en dehors de toute cette expérience-là de baptême de Saint-Esprit, etc., c'est que le Saint-Esprit nous remplit et nous donne des dons. Et ça, c'est le rôle ou les rôles, plénitude et dons, qui dominent, mais d'une façon magistrale. Le Nouveau Testament, et en particulier, bien sûr, les Épîtres, puisque ce sont là les enseignements pour les croyants de l'Église. Donc, beaucoup de passages là-dessus. Prenez le temps de les regarder quand vous voudrez, mais on résume vraiment bien en disant plénitude, on est rempli de l'esprit, pas dans le sens où on est comme des robots, là, mais dirigé, contrôlé et puis sous son influence. Mais ce qui m'a frappé, et ce sera le dernier point concernant son rôle avec l'Église, c'est qu'on voit plusieurs exemples de mauvaise attitude de certains croyants à l'égard du Saint-Esprit. Et ça m'a frappé, entre autres, avec, et on n'ira pas dans les passages, le temps va nous manquer, mais rappelez-vous Ananias et Saphira, dans Actes 5, ils ont menti au Saint-Esprit. Pourquoi? Ben, moi, je présume qu'ils étaient croyants, parce que pour mentir au Saint-Esprit, il faut qu'ils soient là. Et donc, le Saint-Esprit n'est pas dans l'incroyant, il est dans le croyant. Et puis donc, je présume que c'est au Saint-Esprit qu'ils ont menti dans leur cœur, parce que le Saint-Esprit leur montre quoi faire, mais eux, ils sont hypocrites. Et puis, dans leur cœur, ils fomentent un mauvais plan, et puis donc, ils mentent, et puis c'est ce qu'ils présentent aux apôtres par la suite. Donc, ils ont menti au Saint-Esprit. On voit dans Éphésiens 4:30 qu'on peut attrister le Saint-Esprit de Dieu quand on n'obéit pas à la parole de Dieu, quand on... On fait à notre tête, on prend des mauvaises décisions, on sombre dans le péché, on attriste le Saint-Esprit en nous. Dans les Thessaloniciens, on voit même malheureusement la possibilité d'éteindre l'Esprit dans ce sens, d'empêcher d'agir dans nos vies. Et c'est intéressant parce que c'est dit en lien avec la prophétie, c'est-à-dire le ministère de prédication de la parole de Dieu. Puis peut-être que concrètement, on peut penser, par exemple, à un chrétien assis dans une église locale, et là, il voit que c'est quelqu'un qui va parler, puis il se dit, ah, lui, il m'énerve, je ne l'écoute même pas. C'est d'éteindre l'esprit que d'agir de cette façon. Attention de ne pas agir de cette façon. On doit écouter et retenir ce qui est bon, laisser de côté ce qui n'est pas bon, mais laisser Dieu nous parler et il nous parle. Pardonnez-moi. J'avais le nez qui coulait un tout petit peu, puis ça m'énervait. Ensuite, donc, on voit dans les Hébreux que des gens ont carrément foulé aux pieds le Saint-Esprit ou le Seigneur Jésus, et ça fait dire même à certains commentateurs, c'est pas possible, c'est pas des chrétiens qui ont fait ça. Vous lirez pour vous-même le contexte, mais c'est vrai qu'on a parfois vraiment une mauvaise attitude à l'égard du Saint-Esprit, et je pense à, entre autres, à un texte dans 1 Pierre, je vais le prendre le temps de le lire, il me reste encore quand même quelques minutes. Dans 1 Pierre 4, au verset 14, on lit ceci. 1 Pierre 4, 14. Non, je n'ai pas le bon texte. Pourquoi j'ai marqué ça? Attendez, je vais le relire. Si vous êtes insulté pour le nom de Christ, vous êtes bienheureux, car l'Esprit de gloire et de Dieu repose sur vous. De leur part, il est blasphémé. Ah, OK, je viens de comprendre. Ce n'est pas nous directement, mais c'est le Saint-Esprit lui-même qui est en nous, qui est blasphémé par ceux qui s'opposent à nous et qui persécutent. Donc, pardonnez-moi, j'avais complètement oublié le contexte, mais c'est un de ces textes, en fait, qui probablement là inclut, pas probablement, de toute évidence, inclut des croyants et peut-être des incroyants, et peut-être aussi, c'est le cas dans Hébreux. Je ne sais pas me positionner de façon dogmatique. Moi, j'aimerais bien inclure aussi l'idée qu'un croyant puisse faire ça, pas parce que ça me plaît, mais ça ne me plaît pas du tout, mais parce qu'en fait, ça demeure un sérieux avertissement pour nous de ne pas mépriser l'Esprit de Dieu. Ce texte-là, il est trop important, je vais le lire parce que là, j'ai l'impression de ne pas être assez clair. Verset 29, ouais, il parle de ceux qui ont foulé aux pieds le Fils de Dieu, estimé profane le sang de l'Alliance. C'est comme ça veut dire, dans le fond, de le juger comme si c'était commun, c'était pas si important que ça, quoi. Mais aussi, outrager l'esprit de la grâce. Est-ce qu'un chrétien peut faire ça, outrager l'esprit de la grâce? Mais vous savez, quand on ne lit pas nos Bibles, quand on ne prie pas, quand on n'écoute pas ce que Dieu nous dit dans notre cœur et qu'on fait à notre tête, est-ce qu'on n'est pas en train d'outrager l'esprit de la grâce quand on fait ça? Est-ce qu'on ne foule pas le Fils aux pieds? C'est comme si on tenait ces choses-là pour ordinaire et qu'on n'y accordait plus d'importance par notre désobéissance. Alors, moi, j'aime bien y garder un aspect d'avertissement pour les chrétiens. Mais certainement que les incroyants, ça les caractérise hein, quand ils rejettent le message de l'Évangile. Alors, je ne serais pas dogmatique au point de dire que c'est uniquement qu'un cas, mais gardons les deux possibilités. Donc, voilà, il y a quelques passages comme ça qui nous présentent des cas où on a mal agi à l'égard de l'Esprit. Jude 19 parle même d'un cas particulier où les gens n'ont même pas l'Esprit de Dieu, ce sont des faux docteurs. Là aussi, on peut l'inclure dans la période de l'Église, puisque l'Église est malheureusement frappée par les faux docteurs. En conclusion, il y a un dernier point que je vais mentionner. Il y a une quantité impressionnante de versets qui parlent de l'inspiration des Saintes Écritures par le Saint-Esprit. Si on m'avait posé la question il y a une semaine en me disant, Gilles, quels sont les textes qui parlent de l'inspiration des Écritures par le Saint-Esprit? J'aurais probablement répondu rapidement comme ça, 2 Timothée 3, 16, ou 2 Pierre 1, 21, les deux textes classiques, quoi. Mais finalement, comme vous le voyez dans vos notes de cours, il y a beaucoup plus de textes. À chaque fois qu'on voit que c'est par le Saint-Esprit que des prophètes ont écrit ou parlé, c'est l'inspiration des Saintes Écritures qui est derrière ce phénomène, quoi. Alors, je me rends compte que finalement, c'est beaucoup plus présent que je pensais. Et là, ça me réjouit beaucoup, ça, parce que j'ai beaucoup plus d'arguments de passage qui le confirment. Tu sais, on voit, par exemple, dans les Hébreux, où on dit « Résistez pas à ce que l'Esprit de Dieu dit dans soit les textes de l'histoire d'Israël ou des psaumes. Hein, si vous entendez sa voix, ne résistez pas, hein, soumettez-vous, obéissez, etc. Donc, c'est le Saint-Esprit qui est derrière ces messages. Et donc, ça nous parle de l'inspiration. Voilà trois ressources que je vous suggère fortement maintenant. Quel bon livre! J'aurais aimé que, ouais, que René Pache il écrive sur tous les domaines de la théologie systématique. Il l'a fait de façon très brève dans le dictionnaire biblique d'Emmaüs, mais ce livre-là, « La personne et l'œuvre du Saint-Esprit », je vous encourage beaucoup à le lire, de même que celui de Jean-Jacques Dubois, « Baptême et plénitude du Saint-Esprit », qui est un peu plus court. En fait, c'est un livre qui est beaucoup moins dense, mais très, 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 très précis, très, très clair et très solide, très conservateur doctrinalement. Et bien entendu, le chapitre 5 sur la pneumatologie de la théologie systématique de MacArthur, très détaillé, vous allez en trouver beaucoup aussi là-bas. Et l'avantage de ces ouvrages, contrairement à ce que j'ai fait, présente vraiment tout le concept du Saint-Esprit d'une manière thématique, en fait, avec des précisions beaucoup plus justes peut-être ou détaillées que ce que j'ai fait ce soir. J'espère quand même que ça vous a éclairé un peu et que ça a répondu à certaines questions. J'arrête le partage et puis je redonne la parole à Nathan.
Certainement que ça a répondu à des questions, Gilles. Merci pour cette manière de présenter aussi, originale, qui est intéressante et puis qui nous fait parcourir la Bible en mettant l'accent sur certaines périodes et la manière dont l'Esprit a ainsi agi durant celle-ci. Plusieurs questions, évidemment. Donc, je te propose d'en prendre notamment une. Tu as parlé du blasphème contre le Saint-Esprit. Et puis, on a eu deux questions de personnes qui se posent la question, mais est-ce que finalement, alors, est-ce que ce péché existe encore aujourd'hui?
Personnellement, je ne crois pas. Puis, la raison est la suivante. Et là, je parle bien du blasphème contre le Saint-Esprit de manière spécifique. Je dirais que dans l'interprétation qu'on en a fait, pour blasphémer le Saint-Esprit, il faut plusieurs choses. Il faut que Jésus soit sur terre, qu'il fasse des miracles et confirme ces miracles-là, qui sont confirmés que c'est l'œuvre du Saint-Esprit, hein, c'est l'évidence même. Et puis, il faut malgré tout s'obstiner et rejeter la puissance, en fait, l'attribuer plutôt au diable. Donc, dans le sens historique où ça se produit et le contexte où ça nous est présenté, je dis non, ça ne peut pas se faire aujourd'hui puisque Jésus n'est pas là. Mais par application, certains vont dire, par exemple, que oui, mais les miracles rapportés par Jésus dans les Écritures, le Saint-Esprit veut amener les gens à la conviction que c'est bien Jésus qui les fait. Et quand les gens s'obstinent à rejeter le témoignage de l'Écriture, n'est-ce pas le blasphème contre le Saint-Esprit? À nouveau, je dirais non, mais c'est semblable, c'est vrai, et les conséquences vont être exactement les mêmes. Et c'est vrai aussi pour ceux qui rejettent Jésus comme Sauveur et Seigneur, qui rejettent l'Évangile, qui n'en veulent pas. Ils ne commettent pas a priori le blasphème du Saint-Esprit parce qu'ils ne sont pas témoins des miracles de Jésus et en train de dire « c'est le diable qui le fait ». Vous voyez, c'est très précis le blasphème du Saint-Esprit. Mais les conséquences sont identiques, c'est la perdition éternelle. Alors je dirais, voilà, des gens aujourd'hui qui pensent, par exemple, qui pensent avoir commis le blasphème contre le Saint-Esprit, déjà, si une personne pense qu'elle a commis ça, je pense que c'est parce que son cœur est en train d'être travaillé d'une certaine manière. Donc, j'aimerais plutôt la rassurer en lui disant « tu n'as pas commis le blasphème contre le Saint-Esprit, tu t'entêtes et tu t'obstines à rejeter Jésus comme sauveur personnel. » Peut-être, c'est vrai, peut-être que tu as de mauvaises pensées, même à l'égard de Jésus et de sa puissance et de ses miracles, mais si par la repentance et la foi, tu viens au pied de la croix, tu peux être sauvé. Alors que dans le cas de Jésus, c'est un péché impardonnable tout de suite. Ce n'est pas un acte qu'on attend sur quelques années ou après quelques années. C'est tout de suite, la sentence est tombée et Jésus dit que ce péché-là ne sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Et si l'on interprète cette phrase-là, dans la compréhension juive, le siècle présent, c'était le siècle dans lequel il vivait dans l'attente du Messie, et le siècle à venir est celui où le Messie sera présent. Et donc, si le Messie est présent dans le siècle à venir et fait des miracles à nouveau ou agit de façon miraculeuse et que quelqu'un oserait attribuer au diable cette puissance, tout de suite le jugement tomberait. Alors voilà, peut-être qu'on peut dire, le blasphème contre le Saint-Esprit a existé pendant le ministère public de Christ, pourra hypothétiquement exister pendant le royaume messianique, peut-être, et il n'y aura aucun pardon à ce moment-là. Donc, moi je distingue en fait le péché historique, contextuel au ministère public de Christ et un péché de rejet qui finit avec les mêmes conséquences après tout.
Donc, le péché, parce que ça c'est une question, le péché d'Ananias et de Saphira contre le Saint-Esprit ne peut pas être
Non.
considéré comme étant un blasphème contre le Saint-Esprit.
Absolument pas. Absolument. Ils ont menti au Saint-Esprit. Ils n'ont pas blasphémé le Saint-Esprit. Ils n'ont pas attribué une puissance quelconque d'un miracle de Jésus à Belzébul ou au diable. Non, non, ils ont été hypocrites, quoi. Écoutez, alors je vais vous dire franchement, si Dieu jugeait tous les Ananias et Saphira, l'écran se fermerait, il n'y aurait plus personne probablement, parce qu'on a tous quelque part menti, exagéré, étiré la vérité. Ouais. Ça nous est tous arrivé. Et puis, par la foi et la repentance, par sa grâce, il restaure. Le but de ce qui arrive avec Ananias et Saphira, c'était pas de juger un péché que Dieu allait toujours juger. Je vous dis, il n'y aurait pas eu d'Église par la suite, il me semble. Mais c'était de donner un message pour que l'Église craigne Dieu et ne tolère pas le péché. Je crois que c'est beaucoup plus ça la leçon d'Ananias et Saphira que d'y voir un jugement blasphème, quoi.
Merci. On va poser encore une dernière question. Il y en a beaucoup. Peut-être que les supplémentaires, on y répondra par écrit. Mais il y a une question qui me paraît importante sur Actes 2, versets 2 et 3. Qui fait sans doute allusion à la Pentecôte. Et puis, voilà, qui nous relate ce souffle violent et impétueux qui a rempli la maison où étaient assis les disciples, et puis qu'il y a des langues qui sont apparues. Et la question est la suivante, cette expérience donc qui est décrite à ce moment-là, est-ce que c'est le baptême du Saint-Esprit ou est-ce que c'est la plénitude? Quand est-ce qu'on est baptisé du Saint-Esprit?
Le baptême du Saint-Esprit se produit une seule fois dans la vie de tout croyant, c'est-à-dire au moment de sa conversion. Ici, c'est le baptême de l'Esprit, mais là, ce qu'on doit tenir compte, c'est que ces croyants-là, ils étaient avant l'événement déjà croyants. C'est comme si, dans ce cas-ci, d'une manière particulière, le Saint-Esprit a scellé leur salut, leur appartenance à Dieu et leur inclusion dans l'Église. Pour tous ceux qui vont suivre par la suite, donc le baptême du Saint-Esprit d'Acte 2 s'est appliqué non seulement aux apôtres, mais à tous les croyants qui précèdent et qui étaient encore vivants et qui étaient aussi dans l'attente. Bon, il faut aussi souligner que seulement les apôtres, hein, ici, parlent en langue. Ça, c'est une autre chose. Mais on est certain que tous les croyants qui précèdent cette période et qui étaient dans l'attente ont reçu de la même manière le Saint-Esprit en eux. Ça ne s'est pas manifesté dans le parler à langue pour tout le monde, uniquement les apôtres en Acte 2. Et puis, voilà, par la suite, chaque fois que quelqu'un se convertit au Seigneur, le Saint-Esprit vient en lui. Et puis, dans les Actes des apôtres, on est dans une période transitoire, temporaire. On a besoin de comprendre et d'apprendre les choses. On a besoin de saisir les plans de Dieu dans l'histoire de la rédemption. Et c'est pourquoi, parfois, il y a un décalage entre la conversion, la réception de l'Esprit. Il y a des dons miraculeux qui accompagnent tout ça. Et tout a pour but de mettre les choses en place. Mais avec la saine doctrine des Épîtres, on dégage très clairement la doctrine du baptême de l'Esprit. Et ça se produit donc. Quand un pécheur se convertit, l'Esprit vient en lui, il est ajouté tout de suite à l'Église, il est né de nouveau et cette expérience est unique et ne se reproduira pas. Ce qui va suivre, c'est la plénitude ou pas du Saint-Esprit dans la mesure où on le laissera diriger nos vies.
Merci Gilles, merci beaucoup pour cette soirée, merci pour ces réponses à ces questions. Comme dit, les questions supplémentaires, on va les enregistrer et puis il y sera répondu dans un second temps et je vais laisser Antoine conclure.
Merci.
Oui, alors effectivement, merci Gilles de nous avoir rappelé ces magnifiques réalités sur ce sujet si important et aussi d'avoir accepté ce défi de refaire ton cours pour nous amener un enseignement frais de la part du Seigneur. On en est reconnaissant. C'est beaucoup de travail. Et puis, je terminerai en rappelant aussi deux choses, ces deux impératifs. On en a parlé, c'est soyez remplis de l'esprit. Et c'est vraiment pour chacune et chacun d'entre nous, soyez remplis de l'esprit. Et puis, on peut dire son pendant, n'éteignez pas l'esprit. Et je pense que si quelqu'un ce soir est interpellé, eh bien, qu'il se rende compte et confesse pour quelque chose qui l'empêcherait d'être rempli de cet esprit. On a tous besoin de confesser à un moment donné, et c'est aussi une petite application pratique en fin de cours. Voilà, je terminerai encore par la prière, en remerciant spécialement pour cet esprit qui nous est donné. Oui, Dieu et Père, sois loué parce que tu nous as pas laissés ignorants. Tu nous donnes même beaucoup de textes. Tu nous donnes aussi ce support de cours pour élargir aussi cette étude sur le Saint-Esprit. Merci Dieu et Père parce que tu veux nous rendre plus sensibles peut-être à la vie de l'Esprit en nous. Eh bien, Dieu et Père, bénis toutes mes sœurs, bénis tous mes frères, où qu'ils soient, tous ceux qui ont écouté ce cours, tous ceux qui aussi font partie de ceux qui écoutent habituellement, Seigneur, tu enrichis chacun. Merci pour ta parole, merci pour ton et amen.
Amen. Merci Antoine.
Voilà, comme cela vous a été dit, je pense qu'on pourra prier spécialement aussi avant ce prochain cours que Gilles donnera sur le monde invisible. C'est un sujet aussi difficile, un peu critique. Et je vous propose aussi, avant ce 27 novembre, de prier pour ce sujet et on se réjouit de t'entendre et de aussi, voilà, réfléchir pour nous-mêmes. Cette question du monde invisible et cette réalité qui est peut-être aussi triste, mais on a toutes les ressources en Dieu et par l'Esprit. Bonne fin de soirée à chacune et à chacun et à tout bientôt. Au revoir.
Ciao, ciao. Bonsoir à tous.